tal, amigo?
Un, dos, tres, dale.
Todo es la música.
Bienvenue sur la Com en Live, l'émission qui part à la rencontre des hommes et des femmes qui font l'actualité communautaire du consistoire israélien du Bas-Rhin.
Boker Tov à tous, bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. On est avec une particularité un peu spéciale aujourd'hui. On a une émission dédicacée en fin de compte à l'année néaire et à la journée qui se sera passée jeudi, puisqu'on diffuse le vendredi et qu'on enregistre le jeudi, comme nos auditeurs le savent. Alors on a autour de la table, bienvenue Hana.
Boker Tov.
Boker Tov, Gabriel.
Boker.
Et Mélanie.
Mélanie Lévi-Thiébault,
voilà. Enchantée. Alors ce que je vous propose d'habitude, on a des séquences l'un derrière l'autre, à la rencontre des hommes et des femmes qui font la vie communautaire de la semaine. Cette fois-ci, on va essayer peut-être de vous présenter l'un après l'autre, et qu'après on ait un peu une discussion sur c'est quoi cette année NR, comment vous l'avez préparée, et comment ça se passe, et quels sont les sujets en fin de compte sur lesquels vous voulez mettre l'accent, et qui vous paraissent importants en 2023 avec NR. Hana, peut-être pour te présenter. Tu viens d'Israël, hein?
Alors, je viens d'Israël, j'habite Netanya et j'enseigne à l'université de Bar-Ilan en philosophie juive. Et je viens de terminer un doctorat sur l'œuvre d'André Néer qui s'intitule « La lecture biblique d'André Néer comme geste existentiel juif ».
Waouh.
Voilà.
Ça calme, alors les amis.
Tout un programme.
Mais pour autant, c'est assez synthétique.
Oui. Non, c'est... Enfin, vous verrez. C'est,
ok, on va en parler après. Gabriel, avec Gabriel Attias, qu'on présente presque plus.
Gabriel Attias, enseignant.
Et pas que.
Et voilà, et donc j'habite Strasbourg, comme tout le monde le sait. Et je suis ravi d'être accompagné de deux grands esprits.
Alors, enseignant de quelle matière ?
Hébreu, histoire juive, sans plus.
Voilà. Et tu es un grand, grand passionné de musique et d'art.
Eh bien oui, c'est pas par hasard.
Au croisement de la pensée juive,
oui.
Peut-être.
Non, je dirais que la musique comme art de vivre.
C'est ça. Pas que, parce que c'est quelqu'un qui adore vraiment l'art de vivre, c'est quelque chose qui te dit que tu as vraiment un art de vivre particulier.
Ah oui, c'est vrai que l'ascétisme ne me connaît pas.
Magnifique. Alors justement, je crois que ça fait le lien avec Mélanie. C'est comme ça que vous avez même créé un lien, je crois, à travers ce partage.
Absolument,
de la passion de l'art.
C'est grâce à la musique qu'on s'est rencontrés. Je suis chef d'orchestre depuis 30 ans et je viens de créer un orchestre qui s'appelle le groupe orchestral Le Paradoxe, qui re-raconte la musique à partir de Schoenberg, d'où ma présence ici, puisque dans le dernier livre de André Néer, Faust et le Maharal de Prague, il y a un magnifique chapitre sur Schoenberg. Voilà.
Voilà, on est très contents de voir. C'est peut-être justement un lien magnifique qu'on peut faire tout de suite. Schoenberg, le Maharal de Prague, Néer. C'est vrai que les Alsaciens ici connaissent Néer parce que c'est un Alsacien. Ils ne connaissent pas toujours Néer parce que c'est un grand penseur. Mais c'est paradoxal, mais c'est vraiment peut-être vrai. Racontez-nous un peu comment on arrive, Néer, comment on arrive à faire que Néer devient pour vous une référence de pensée juive contemporaine. Je ne sais pas, peut-être Hana pour...
Moi, c'est une rencontre... qui a changé ma vie, en fait. J'ai pas rencontré Néer lui-même, j'ai rencontré sa femme à Jérusalem.
Rina, c'est ça.
Mais je suis entrée dans Néer la nuit de mon alia, donc quand je suis montée en Israël, à l'aéroport. La personne qui était venue me chercher devait attendre, et elle avait dans son sac un petit livre, Jérémie. Et dans Jérémie, d'André Néer, il y a la description de ce que je ressentais à l'époque, d'être déchirée entre deux identités, de ne pas arriver à trouver sa place, de ne pas savoir exactement quelle est la mission du peuple juif, toute cette question identitaire. Et dans Jérémie, Jérémie se trouve face à Dieu et il va passer un processus où il va comprendre que le fait d'être élu, c'est pas forcément un fardeau, c'est pas forcément une différence qui nous met à l'écart des autres, mais au contraire, c'est un double sens de l'hébreu qui veut dire que être choisi, c'est être aimé et être responsable. Et en fait, ça nous relie aux autres. Et ça réunit en fait mes deux identités qui étaient déchirées en France. Et c'était le début d'une grande aventure, puisqu'à partir de là, j'ai commencé à travailler sur l'œuvre d'André Néer.
Waouh, magnifique, hein. Alors, Gabriel, André Néer, c'est aussi ce fameux livre sur l'identité juive, justement, qui est un des piliers presque de l'éducation, on pourrait dire, de l'éducation juive. Comment toi, en tant qu'éducateur, tu relis ça?
Alors, moi, avant l'éducateur, il se trouve que je n'ai jamais eu de déchirure au niveau identitaire. Petit juif marocain, content d'être ce que je suis, Et j'ai 17 ans, 18 ans, je rentre à la yeshiva du Rav Botchko, grand-père, hein, et un ami à moi, un musicien à Jérusalem, me parle de ses relations avec une famille, Néer, Manitou, tout ça. Je lui dis, c'est qui ce Néer? Il me dit, c'est un monsieur, un grand penseur. Je lui dis, ah bon? Et il habite où? À Jérusalem, pas loin. Je lui dis, écoute, donne-moi son numéro de téléphone. J'appelle André Néer. Bonjour, vous êtes André Néer? Oui, oui, tout à fait. Il paraît que vous vous intéressez à la pensée juive. Il se trouve que moi aussi, il faudrait qu'on se rencontre un jour. Et là, avec une gentillesse incroyable, il me dit, demain, ça vous va? Je lui dis, allez, très bien. Je ne sais pas qui est Néer. Et là, je rencontre... Je l'ai dit hier à Elisheva
Revel.
Quand on regarde dans l'azur de ses yeux, on est dans l'infini.
C'est magnifique.
Un regard magnifique, un sourire angélique. Malheureusement, je ne savais pas que c'était la dernière année de sa vie. Et il se crée comme ça un lien. J'ai été le revoir à quelques reprises. Toujours d'une gentillesse incroyable. Et moi, avec mes questions, tu sais, à 19 ans, on croit tout savoir. Et je le provoque, je ferai la même chose quelques années après avec Henri Atlan ou avec Henri Baruch, avec tout cela. J'ai gardé ce côté un peu enfant. Et il s'est créé un lien absolument incroyable. Et à son décès, Rina Néer m'a dit, Gabriel, vous n'achèterez plus de livres d'André, ils vous sont offerts.
Ouais.
Et donc elle m'a offert tout. Et ce qui me rend quand même plus fier, c'était que la dernière lettre de Néer m'est adressée.
Je veux la voir.
Trois, quatre jours avant son décès. Et pour cette journée, ben, je dirais, quel Néer je vais traiter, qui n'est pas très courant.
Alors, c'est
autour de la musique.
C'est ça, alors Néer en même temps, on a traditionnellement, on voit que l'héritage dans les textes juifs, il est soit un héritage qui vient de l'ancien, soit c'est un héritage qu'on doit presque s'approprier pour après le transmettre. C'est-à-dire il y a deux dimensions, il y a quelque chose qui vient du passé, puis quelque chose qu'il faut s'approprier pour le passer vers de le prendre pour le donner vers l'avenir. Comment justement Néer a su en même temps gérer un héritage? Si je comprends bien, qui va du Maral avec en même temps au croisement de Botchko
jusqu'au
Rav Kook, surtout.
Et s'il te plaît, de l'astronomie aussi, David Gans, qui était l'élève de Tycho Brahe et de Kepler.
De la musique, de l'art.
Alors, sur la musique.
C'est moins son sujet, non?
Ah, oh ah, c'est son sujet.
Surtout, c'était un musicien.
Je découvre.
C'est le.
Je suis un kilt.
Néer, son sujet, c'est la musique. Son drame va être. 39.
Ouais.
C'est d'abord un germaniste tricolore, j'insiste sur tricolore, un français pétri de culture française, amoureux jusqu'à la moelle, comme va l'être Manitou d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Et ma...
Mais c'est la racine.
Mon approche non orthodoxe de Néer, de Manitou et de tout cela. Mais bon, comme je n'ai aucun statut, donc j'ai la liberté de m'exprimer. Je pense que leur sionisme, à un moment donné, le sionisme politique, que ce soit celui de Manitou ou que ce soit celui de Néer, est une substitution d'un amour déçu.
Enfin, sauf que c'est la racine et la source. Donc la racine, effectivement, françaises, germaniques, etc. Et puis la source, c'est ce chemin qu'ils ont commencé avec Bereshit et qui se termine avec la fin d'Ivrei Hayamim, les chroniques, c'est Hashlama qui est justement la montée en Israël. Il y a une logique qui se tient dans toute l'œuvre, autant de Manitou que de Néer.
Mais c'est vrai qu'on retrouve, Hana, un peu l'idée que vous disiez au départ de la lecture de Jérémie, c'est-à-dire cette dualité dans l'identité qui crée une unité, où il n'y a plus quelque chose de duel, mais il y a quelque chose de co-construction, on va dire, de on va réunir tous ces éléments pour en faire quelque chose qui donne une force, j'ai l'impression, non?
Oui, et puis justement, cet héritage français, c'est le mot de Napoléon, ça veut dire tout en tant qu'individu, mais rien en tant que peuple.
Et donc, c'est de Clermont-Tonnerre, ça, plutôt.
Ouais. Et donc, mais c'est pas grave, vraiment le franco-judaïsme, etc.
Ouais,
et, donc, et puis la laïcité, ça veut dire qu'on est quelqu'un à l'extérieur, avec tout le monde, et puis on est quelqu'un d'autre à la maison, dans le secret de sa religion, de sa confession, de sa foi. Et alors que le judaïsme, en tout cas tel qu'on peut le vivre en Israël, mais bon, je vois qu'à Strasbourg c'est aussi bien, bien vivant, c'est, y a pas de différence entre... Enfin, tous les domaines de la vie sont...
Oui, alors c'est sûr que cette dimension de laïcité, dans le sens à ce qui se passe à la maison, ce qui se passe dans la cité, a deux dimensions quoi, importantes. Est-ce que justement, cet héritage des nerfs, par rapport à d'autres penseurs, ce qui a été aussi le cas de Manitou, c'est qu'ils ont su, après-guerre, réinventer quelque chose en s'appropriant en même temps, en étant, j'ai l'impression, très digne par rapport à cet héritage, et en même temps... de recréer d'ajouter leur pied rouge, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire d'ajouter leur sens à leur compréhension de cet héritage pour en faire un héritage néerien, si je comprends bien.
Bah, surtout, ils ont réussi là où, je sais pas, l'école allemande, par exemple, a échoué, à mon sens. C'est-à-dire que la Haskalah, c'est la modernité, donc qui a donné après la réforme. Et eux, l'école de Paris, au contraire, va enrichir, va amener la tradition, va respecter la tradition et à partir de là, amener un chidouche. Mais pas en enlevant le premier sens.
Un nouveau sens, c'est ça ?
Un nouveau sens, un renouvellement du sens, mais qui va s'ajouter au sens déjà présent et pas qui va le remplacer. Donc il n'y a pas une volonté de faire d'affradage, de tout refaire à zéro, mais au contraire de construire sur les bases, sur les ruines.
Et alors c'est quoi leur, comment on dit aujourd'hui, leurs petits tips ? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont su que cette école française... Elle a su en même temps garder ses racines et trouver un renouveau qui était entendable aussi par la communauté juive francophone.
Bah c'est...
Gabriel,
t'en penses quoi ? Vous direz, mais c'est un peu ce que vous disiez.
C'est juste la musique ?
Le mélange, non, entre l'universel et le particulier. C'est-à-dire d'être ce pont entre les cultures et le judaïsme. Et puis cette volonté, et je finis là, je vous laisse la parole, de faire l'inverse de ce qui était fait avant. Ça veut dire de lire le monde à partir du judaïsme en tant qu'être juif comme quelque chose qui existe et non pas vu par le regard de l'autre, comme disait Sartre.
Vous voyez, là.
Moi, j'aimerais entendre Mélanie.
J'allais lui demander aussi, est-ce que là, est-ce que la musique...
Sur quand même quelque chose d'assez intéressant chez Néer. Il commence, mais ça va être ma surprise au colloque, puisque j'ai exhumé des textes de 1933 du gamin Néer, l'âge de 18 ans.
Sur Spinoza, non ?
Non.
J'en ai trouvé un.
Juste après.
Il habitait où à l'époque ? À Auvergne, c'est ça ?
Non, à Strasbourg.
Strasbourg, déjà.
Sur Couperin, et ensuite sur Wagner. Et comme... Alors... Il vient en quelque sorte rebâtir sur les ruines à Jérusalem. Et à la fin de sa vie, le dernier ouvrage, à quoi il revient ? À Faust. Mélanie.
Oui, Faust, c'est vraiment le mythe que tout le monde recherche. C'est-à-dire cette, comme Néer, et je le cite, cette vieillesse permanente finalement. Et qui pour nous pourrait paraître être la vieillesse de la sagesse. Mais Néer n'en parle pas comme ça. Il en parle comme un Faust qui n'aurait jamais été jeune finalement. C'est une vieillesse du savoir. Et du savoir permanent qui fait qu'on n'a pas l'idée de sortir et d'agir, comme le judaïsme nous le demande d'ailleurs. D'agir, d'œuvrer, de jouir de la nature. De tout ce que l'être humain peut faire. Et ça, c'est vraiment intéressant comment Néer parle de Faust, puisque d'une certaine manière, Faust est condamné. Et il est condamné dans la musique aussi. Et Néer en parle très bien, que ce soit chez Gounod, que ce soit chez Berlioz, où Berlioz fait la rédemption de Marguerite, mais la condamnation de Faust, que ce soit chez le réalisateur de l'expressionnisme allemand Murnau, où là, c'est la rédemption pour les deux. Et Néer parle bien de cette oscillation entre rédemption et damnation, en fait. Et finalement, quand on sait que Faust, finalement, la vraie origine de Faust, c'est pas la Renaissance, c'est pas Christopher Marlowe, c'est bien plus loin, c'est le livre de Job. Et Job qui est constamment aussi entre cette protestation et cet acte de foi.
Tout
et ça, c'est vraiment...
Tout le prologue.
Et dans Faust, il y a le prologue sur le théâtre, ensuite le prologue dans le ciel, et ensuite seulement Faust commence.
Il faut qu'on réécoute...
Il faut une émission entière pour tout réécouter, pour voir surtout le regard de Néer là-dessus. Et ça, c'est intéressant.
Il y a des écrits sur Néer, l'artiste,
Mais il jouait magnifiquement du piano. Oui, ce, le document que tu m'as montré, Gabriel, il jouait magnifiquement du piano.
C'est toute une dimension qu'on ne connaît pas et que... Alors, ça me peinerait de froisser mes amis israéliens, pour lesquels j'ai une affection sans borne, même si nos opinions divergent. Mais Ner est un pur produit de la germanité, de la France. Et même quand il arrive en Israël, il ne produit qu'un seul livre en hébreu. Et il a une plus belle poésie dans sa langue française, comme Manitou. Manitou, quand il s'exprime en hébreu, c'est pas exceptionnel. Mais dès qu'il parle en français, c'est tout le génie. C'est-à-dire, en fait, ils ont puisé au génie de la France, comme Ner va puiser au génie de la musique française. Couperin, tu peux pas voir plus français que ça. Allant jusqu'à contester à Bach son œuvre qui serait quelque part un peu puisée de la France. C'est un couperin.
Oui, oh, joli, bravo.
Mais j'ai l'impression à vous écouter qu'il y a vraiment un peu comme quand il y a la lecture de la Torah tous les samedis avec la cantillation, et on dit même c'est tahamim, comme ça s'appelle.
Sens,
ça ouais. Donne un sens, mais ça donne aussi une saveur, hein, c'est bien un sûr, arôme, c'est la, même, la racine, c'est la même racine presque.
Ah, oui,
et j'ai l'impression que Ner, à travers cette dimension artistique musicale, a mis un arôme, une saveur dans
En fait, il écrit, en tout cas en français, il écrit comme on phrase la musique, c'est-à-dire dans son écriture il y a de la poésie certes, mais il y a aussi un phrasé, il y a un souffle, et c'est ça qui est tout à fait renversant. Moi, le premier livre que Gabriel m'a mis dans les mains, c'est Ils ont refait leur âme. À chaque fois que je le rouvre, on ne peut que pleurer, au-delà de la philosophie, au-delà de la spiritualité, aussi tout simplement du phrasé qu'il y a, et ça c'est assez, assez extraordinaire, c'est très très rare. Et cet universalisme dont vous parliez tout à l'heure, dont parlait Rana, c'est aussi ce sens de la musique, de cette manière de comment dire, de
il y a une harmonie,
le souffle,
j'ai l'impression,
l'harmonie, hein. Mais aussi comme une transe. Voilà, je cherchais le mot de transe.
Vous savez, il y a une phrase dans le Zohar qui dit il y a des chambres en haut qui ne s'ouvrent que par le chant. Et il y a quelque chose dans la musique qui allie toutes les autres disciplines, en fait, comme une...
Alors, si je peux me permettre, je séparerai quand même un peu le chant dont vous parlez et la musique. Parce que le chant dont vous parlez, il s'agit plus du psaume hébraïque, par exemple, qui, là, effectivement, par ses cantillations, a quelque chose d'extrêmement et austère et transcendant, que la musique occidentale, en tout cas après, va perdre, à mon avis, avec la richesse de l'harmonie, avec jusqu'à Wagner, jusqu'à Schroeder. Et je ne dénigre pas la musique que je dirige, hein, bien sûr. Mais voilà, il y a quand même une dichotomie par rapport
plus
à ce chant.
Une musique plus systémique, vous voulez dire.
Oui, qui est dans un système, finalement, mais si beau soit-il. Et Schoenberg va recasser tout ça pour revenir peut-être à quelque chose de plus... qui se rapproche plus de la musique des sphères, d'une certaine manière.
Mais pour
autant,
justement, cette cantillation, elle est très systémique, parce qu'elle est très organisée, elle est très méthodique.
Oui,
on a l'impression
pas.
Qu'elle est très naturelle, oui. Mais en fin de compte, elle est plutôt... méthodique, en fait.
Sa force, à mon avis, c'est qu'elle est à une voix. Ça, c'est sa force. C'est-à-dire que l'harmonie, on la devine, on l'intègre, on l'imagine, mais elle n'existe pas. Et ça, c'est vraiment, pour moi, un sommet.
Alors, il faudrait peut-être que tu dises un petit mot sur la notion d'harmonie, parce que toi, tu parles en tant que musicienne,
oui, ça me semble
pas dans le langage. Pas dans le langage.
C'est la musique dodécaphonique.
Alors, justement, elle repère cette harmonie. Alors, quand je dis harmonie, les jazzmen vont très vite me comprendre, c'est les grilles d'accords, tout simplement.
D'accord.
Alors, qui ont été très sophistiquées dans la musique occidentale. C'est tout ce qui est l'accompagnement, tout ce qui est les accords, le système des accords de quinte, de sixte, de septième, de dominante, des septièmes d'espèce. Enfin, c'est très, très complexe. Et finalement, Schoenberg va rebattre les cartes pour revenir d'une certaine manière et à son judaïsme et à ce psaume d'une certaine. Et d'ailleurs, il meurt juste après le psaume 130 qu'il écrit. Psaume 130, dodécaphonique, faut l'entendre, ça quand même.
Wow. Alors, dodécaphonique, d'habitude, je traduis de livrite au français. Là, ce qui est bien, c'est qu'on va faire une traduction franco-française. Dodécaphonique pour nos amis, comment ça s'explique?
C'est 12 sons,
c'est
en
ça.
Fait. C'est les 12 sons, do, do dièse, ré dièse. C'est la gamme chromatique qu'on peut faire même quand on n'est pas musicien sur son piano. Une touche blanche, une touche noire, jusqu'à qu'on arrive de de do à l'autre.
Décaphonique. Je fais une spéciale dédicace à mes amis, qui savent que j'adore les mots en français un peu particuliers.
Voilà. Et Schoenberg va utiliser ces doux sons, mais pas juste comme ça, do dièse, ré mi, de manière beaucoup plus sophistiquée. Et il va commencer à écrire à l'envers même. Donc ça, c'est très intéressant par rapport à notre écriture aussi occidentale. Par un mouvement rétrograde, il va écrire en miroir. Donc tout ce qui est en haut va être en bas, tout ce qui monte va descendre. Tout ça va le ramener aussi à son judaïsme, j'en suis persuadée. Alors là, ça reste entre nous, parce qu'il y en a qui vont hurler, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça, puisque l'échelle de Jacob date de 1722, c'est inachevé. Il finit en 1932, Moïse et Aaron, en 33, il se reconvertit. Et je dirais qu'il finit. Il finit l'inachèvement. Oui, il finit. Oui, parce que voilà, c'est pas une conversion, mais c'est une reconversion, un retour. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, j'aime à dire que Moïse et Aaron, il finit son inachèvement, finalement, juste avant de se reconvertir.
Alors, c'est dommage que nous n'ayons pas la vidéo, parce que là, j'ai l'acte de reconversion, c'est-à-dire la Ketouba qu'il a écrit à la communauté libérale à Copernic,
signé Marchagall, avec Chagall comme témoin. Alors, on a parlé un peu des origines, des racines de Nerf dans la réflexion. On voit un peu comment il a un nouveau mode de pensée qui se construit, ou qui s'est construit aujourd'hui en 2023. C'est Néer, comment Néer est contemporain en Israël, dans le débat, comment il s'intègre, est-ce qu'on arrive à réintégrer, je sais que Manitou par exemple est en train de re-rentrer beaucoup dans la pensée juive en Israël, est-ce que c'est le cas Néer, est-ce qu'en France on arrive à, moi j'ai l'impression qu'on a des Néeriens déçus, c'est-à-dire je vous provoque un peu, c'est-à-dire moi je suis ultra fan, j'ai l'impression qu'on est passé à côté du sujet ces dernières années dans le monde francophone pour arriver à sortir arriver à faire émerger Néer comme un grand penseur français d'après-guerre et d'arriver à le rendre contemporain et accessible. Et je ne sais pas, alors comment ça se passe en Israël, comment ça se passe en France ?
Déjà en Israël, vous avez raison, il y a une vague Manitou après avoir eu la vague Lévinas. J'espère qu'il va y avoir la vague Néer. En tout cas, moi j'enseigne aussi Néer en hébreu et je suis face à des groupes de jeunes qui sont étonnés, qui sont choqués, qui ne comprennent pas comment ça se fait qu'ils ne le connaissent pas, qu'on n'entend pas parler, etc. Et donc, ça leur parle. Mais c'est vraiment quelque chose qui commence.
Parce que ça choque, il y a vraiment un énorme contre-pied par rapport, effectivement, à l'approche de l'identité juive dans la société israélienne, qui est d'abord très clivée.
Voilà, vous avez demandé comment il est actuel.
Ouais.
Et je crois qu'il fallait un moment, il faut toujours un moment pour recevoir une grande œuvre. Et il y a chez Néer quelque chose que vous trouvez peut-être dans la musique aussi, de l'ordre. Qui n'est pas, comme chez Lévinas, de la philosophie, ou comme chez Manitou, qui est un rabbin vraiment orthodoxe, avec une idée du messianisme comme processus. Il y a chez Néer l'alliage des contraires. Ça veut dire qu'on entre dans l'angoisse, on entre dans le doute. La religion n'est pas un refuge. Au contraire, on rentre dans la contradiction, dans le paradoxe. Vous avez parlé tout à l'heure de Job. Im et Kathleni, lo Ayachel, le double sens, même s'il me tue, je crois en lui, et s'il me tue, j'arrête de croire en lui. Donc il y a ce double sens, mais d'habiter la tension. Et je crois que c'est quelque chose de très actuel de se poser cette question de l'action de Dieu dans le monde, du silence de Dieu ou de la parole de Dieu.
La question est contemporaine, c'est ça que vous voulez dire?
Vraiment, totalement. Il y a plein de choses qui sont ultra modernes chez Néer et peut-être qu'il fallait un temps pour y revenir. En plus, là, on est après le corona et peut-être que justement, il y a là-bas des réponses, en tout cas des choses qui peuvent nous aider à vivre.
Gabriel, en France, quand tu perçois, que ce soit dans le monde éducatif,
ce soit en France ou partout, je pense qu'on est à la fin d'un processus qui a miné le judaïsme. Dans une sorte de repli et de concentration autour de la peur de la faute, ben, on va cracher le morceau. C'est-à-dire, le monde orthodoxe, le monde des yeshivot, a montré ses limites. Il est en perte de vitesse, il est en perte de souffle. comme la nature a horreur du vide, et qu'il fallait un appel d'air. Et cet appel d'air ne nous vient toujours que de l'extérieur. Manitou, comme Néer, étaient tous deux rabbins, parce que Néer est un rabbin. Néer est un juif orthodoxe, absolument. Et je le démontre texte à l'appui. Sauf que dans la synagogue de Néer, dans la synagogue de Manitou, il y avait des fenêtres. Là où dans les autres,
c'était fermé.
C'était fermé. Et donc, c'est ces fenêtres qui s'ouvrent et l'Israélien découvre que on peut de nouveau respirer. Or, si les Israéliens s'étaient un peu penchés sur certains de leurs penseurs, dont un que j'ai en mémoire et qui me fascine depuis 40 ans, c'est le Nazir, Rabbi David HaKohen. Voilà un homme qui a étudié à l'université de Berlin, crise identitaire.
Bien sûr, qui sortait d'une famille qui s'y elle, quoi, presque.
Descendant du Hafetz Chaim, rien que ça, s'il vous plaît.
C'était un adepte de Schopenhauer quand il a rencontré le Rav Kook.
Oui. Et il découvre, dans le Rav Kook, une autre dimension. Et le problème du monde israélien, c'est qu'ils ont aussi réduit le Rav Kook à une sorte de nationalisme à trois sous. C'est-à-dire comme s'il y avait un État d'Israël autour duquel tout tournait et auquel tout devait revenir.
Néer,
je pense que ce qui serait intéressant, c'est de découvrir le Néer des années 30. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir... Vous savez, comme dans les photos de... Ah, un monde disparu. Comment il s'appelle déjà? Roman Vichniak. De revoir un peu le monde avant la catastrophe. Et c'est ça que j'essaye aujourd'hui de voir. Et je me rends compte qu'il y a des choses...
Mais est-ce que c'est justement toi, Néer, qui a su assumer...
Justement, il dit qu'il y a une névrose à ne pas voir le monde.
C'est une psychopathologie, celui qui n'est pas changé par
Auschwitz d'un côté et la création de l'État d'Israël de l'autre. Ça veut dire qu'on ne peut pas lire le monde sans prendre...
C'est une évidence.
Voilà, on ne peut pas revenir avant la catastrophe.
Ce qui est intéressant, c'est que Néer, même s'il a eu sûrement une phase de névrose, il arrive à passer au-dessus. Et on voit qu'il y a un apaisement que peut-être la musique a justement donné, Mélanie. Mais ce qui m'interpelle, c'est que cette névrose-là, il n'est pas arrivé. On a toujours cette névrose, que ce soit en Israël sur certains sujets ou en France sur d'autres, dans la communauté juive. C'est dommage qu'on n'ait pas arrivé à cheminer et qu'on n'ait pas arrivé à cheminer avec lui ou qu'il n'ait pas arrivé à cheminer avec nous de façon contemporaine
dans l'univers de la pensée. J'aime beaucoup cette phrase dans le Midrash qui dit Hakol talui bamazal afilu sefer Torah shibahechal. Tout dépend de la chance, même le Sefer Torah qui se trouve dans l'arche de la Torah, vous avez des Sefer Torah qu'on n'ouvre pas pendant 5-6 ans et qu'un jour on redécouvre, ah mais quelle belle calligraphie. Je pense que dans l'univers de la pensée, il y a des penseurs comme ça qui sont condamnés à sommeiller, qu'on redécouvre, et je pense que ce qui s'est passé avec Manitou, c'est que sa pensée était porteuse. Malheureusement, elle n'a pas été reconnue à un certain temps. Et moi, j'ai vécu...
Mais tous, il faut un temps. Il faut au moins 10 ans pour reconnaître un grand homme. Et encore.
Et je me souviens de Manitou, puisque moi, j'étais préposé à lui préparer son verre de thé quand il venait nous donner notre cours, un tout petit groupe, à la yeshiva du Rav Bochko. Et donc, je l'ai accompagné pendant un an.
Moi, je prépare le café de Rav Rebibosh au Shabbat matin.
Et je me sentais quelque part malheureux que sa pensée, parce qu'il savait ce qu'il avait fait.
Oui, mais au-delà du malheur et de la névrose, je crois que ce qui est le plus prégnant et qui fait l'unité, justement, c'est l'amour de ces gens pour les hommes, le peuple, mais chaque homme. Il y a juste une petite anecdote que je veux rapporter.
Il reste 2-3 minutes, justement. C'est super comme mot de la fin.
C'est une demi-seconde parce que c'est une anecdote qui montre tout. Il a un ami qui l'appelle, Néer, et qui lui dit, voilà, j'ai un petit neveu qui est né, et c'est le premier de la famille. Bon, ils ont perdu toute leur famille dans la Shoah, donc c'est une grande nouvelle. Et c'est tout. Et Néer lui dit Mazal Tov, et puis lui dit, et puis on a décidé de ne pas faire la brite, parce que c'est trop douloureux, on a des griefs contre eux. Et Néer ne dit rien, il dit Mazal Tov. Après, il raccroche et il dit à Rina, je m'en veux, j'aurais peut-être dû lui dire quelque chose. Et Rina, elle lui dit, mais tu as suivi ton cœur, tu as suivi ton intuition, t'inquiète pas. Et la semaine d'après, ils reçoivent un message, vous êtes invité à la brite de notre petit.
Je crois, j'aimerais vous inviter à vous réinviter. C'est-à-dire, si on peut amener ce mot de la fin à vous écouter tous les trois. Mélanie, vraiment, j'étais ravi de vous rencontrer, Gabriel, Hannah. Il y a quelque chose qui nous engage, j'ai l'impression, dans notre discussion. C'est de refaire découvrir ce nerf qui, effectivement, est autour de l'amour.
C'est ça.
Qui fait ce lien-là.
Ce qui nous unit pas,
qui transcende le dogme, qui transcende les névroses aussi.
Et puis les opinions
et les
chacun.
Opinions, ouais, ouais. Et qui donne quelque chose de très, effectivement, français dans cette laïcité. Moi, j'aimerais ça même dans cette concorde.
Dans le
très alsacienne, quoi. Dans le dialogue. Et où on trouve de l'apaisement et où la musique, justement.
La musique, mais c'est surtout aussi que ce qui transpire dans les écrits de Néer, au fur et à mesure que je le lis, c'est sa foi en l'homme. Et ça, c'est enivrant et renversant.
C'est ce que vous ressentez chacun, ouais. Quoi. Gabriel.
Je voudrais finir par l'anecdote de Brit Mila. Un des termes majeurs dans la philosophie prophétique de Néer, c'est la Brit,
ouais,
et qui est dite avec la Mila, c'est-à-dire avec des mots magnifiques.
Ouais.
Donc c'est un homme de la Brit et qui sait ce que c'est que le mot.
Voilà, vraiment, merci beaucoup
le
à tous les trois. Et rendez-vous dans quelques... Rapidement, il faut à tout prix, je vous motive, je vous pousse, je vous engage, mais militer pour transmettre cette rendre didactique, rendre démocratique cette pensée, parce qu'on a quelque chose à retrouver en Israël et en France, dans le monde juif.
Le Rav Bochko me disait... Rolls-Royce n'a pas besoin de colporteur.
Et nous allons repartir en Rolls-Royce d'ailleurs.
Mais là, c'est très peu de Rolls-Royce qui roule.
Là, on a le tram à prendre.
Allez, bonne journée à tous. Merci beaucoup et on passe à la chronique suivante.
Quel temps, Shabbat Shalom.
Stéphane, qu'est-ce
que
Bonjour Stéphane. Salut Stéphane, tu vas bien?
Très bien, toi?
En forme depuis ce dimanche où on était en séminaire?
Top, au top, nickel.
Raconte-nous un peu, avant de démarrer l'actualité, séminaire du consistoire, du conseil, comment c'était?
C'était ensoleillé, super journée, un beau cadre, un beau lieu, une bonne ambiance de travail pour l'avenir de la communauté.
Alors, on s'est retrouvé tout le conseil avec le grand rabbin et notre secrétaire général à Albé pour une petite journée de séminaire, de réflexion. Et effectivement, on a pu un peu poser les sujets, mettre en perspective certains. Et puis, je pense qu'on en reparlera. Alors, raconte-nous un peu l'actualité de ce Shabbat. Déjà, il y a une conférence, je crois, avec Madame Gaëlle Hannah Serrero qu'on vient d'avoir avec nous vers 17h, il me semble, non, c'est ça?
Ça, effectivement, elle va vous parler de la Haftara, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Effectivement, je crois que c'est inscrit dans le cadre de l'année Néer, dans la suite des festivités de l'année Néer, qui est en cours, dont il y a eu lieu le vernissage mercredi et le colloque jeudi, qui a connu un franc succès pour rendre hommage justement à ces gens qui ont tant fait pour la communauté alsacienne.
Alors, conférence, où faut-il tout détruire pour extirper le mal de la... Où faut-il... C'est Samson, où faut-il tout détruire pour extirper le mal de la société? Shabbat aussi, comme d'habitude, avec les kiddouches ados?
Non, il n'y a pas de kiddouches des ados cette semaine. Pas de kiddouches des ados. On va reprendre un peu plus tard, on reprendra début septembre, on va changer un petit peu la formule. Et donc, on va reprendre ça tranquillement début septembre. Par contre, on accueillera Shabbat prochain une cinquantaine de jeunes Allemand.
Sympa, raconte-nous. Ils viennent d'où?
Alors, ils viennent d'Allemagne, la ville exacte, je ne sais pas.
Ouais, ils viennent d'une école juive, c'est quoi?
Non, c'est le bien qui va. C'est des ados de 14-13 ans qui vont venir, une cinquantaine, qui vont passer le week-end à Strasbourg du jeudi au dimanche.
Génial.
À la rencontre de la SMP de Strasbourg.
Voilà. Donc, on les verra un peu partout dans le bâtiment et à la choule comme c'est d'habitude, c'est ça?
Exactement, tout à fait.
Alors, on a quelques activités pour le Shabbat du 11. Par contre, le Shabbat d'après, il est très très chargé. C'est un Shabbat, le week-end en particulier, où il y a, il me semble, le brunch de Elisa. Il y a le gala de la page. Vraiment, on insiste là-dessus, dimanche 11, de 11h30 à 15h30. Est-ce que tu vois d'autres choses sur ce week-end-là auquel il faut... je crois qu'il y a le concert liturgique, parle-nous-en un peu, à Brumath. Hein.
Oui, il y a Brumath, effectivement, il y a un concert liturgique. Je crois que c'est tout. Après, on travaille sur...
C'est qui le concert liturgique? C'est la chorale? C'est qui le fait?
Non, c'est organisé par le président de Brumath, notre ami... j'ai un trou maintenant.
Qu'on embrasse.
Monsieur l'accordéoniste, excusez-moi. Voilà. Et nous, on travaille maintenant sur les projets d'été. sans trahir évidemment avec le Centre des Jeunes Noirs qui aura lieu en juillet comme d'habitude.
Ouais, on reçoit la semaine prochaine le couple qui dirige ça, les Waknin, ils sont là avec nous, c'est nos invités la semaine prochaine pour nous en parler.
Vous parlons de ça et puis on travaille sur d'autres projets à court terme là, juin, juillet.
Raconte-nous un peu là pour nous mettre un peu le teasing.
Non, il n'y a pas de cuisine. Enfin, pour l'instant, je suis en train d'essayer de faire un petit restaurant éphémère pour les juin, juillet, août, comme ça, pour les vacances. On va voir si c'est faisable ou si c'est pas faisable.
Génial. On peut aussi rappeler qu'il y a le programme de Bel Été qui est disponible depuis quelques jours et qui est dans le Shabbat Shalom, qui est pour nos seniors qui veulent sortir cet été, qui veulent un peu bouger, qui veulent pas rester seuls. Il y a aussi le week-end de J-Move qui se prépare pour le 23-25 juin. Et puis il y a beaucoup d'activités. On a surtout aussi le gala et puis la soirée de Menorah. Et on peut mettre en perspective l'arrivée du groupe de Zero Menarem à partir du 11 juillet, je me semble. Alors, Stéphane, juste peut-être un petit mot aussi, c'est la Matseva cette semaine, dimanche, de deux grandes personnalités de la communauté, de vraiment qui ont marqué notre communauté. Il y a bien sûr le docteur Mühlstein, Claude Mühlstein, et Madame Hallel. Je crois que c'est important pour nous de rappeler leur mémoire et puis de soutenir les familles à ce moment-là. Et puis, on pense très fort à elles, c'est ça?
C'est évident que ça fait partie du paysage strasbourgeois alsacien et que on sera présent pour les honorer. Et évidemment, moi qui suis le matin au Merkaz, je vois et le fils de Claude Mühlstein et le fils de Madame Hallel. Tous les matins, en tout cas, ils ont honoré leurs parents, parce que tous les matins ils sont là et j'imagine le soir aussi pour faire kaddish toute l'année pour leurs parents.
Voilà, alors on pense très fort à eux, à la famille en particulier. Et puis on va se souhaiter un bon Shabbat Shalom. Tu as un petit truc de prévu en particulier en plus ces prochains jours, prochain Shabbat, hein. Beaucoup de boulot.
Écoute, pas pour l'instant, on va voir ce qui se passe. On travaille dessus. J'espère que la semaine prochaine j'aurai plus d'infos à vous donner.
Super, merci beaucoup Stéphane et à très très bientôt. Ciao. Chers amis auditeurs, c'est par ce petite chronique de Stéphane avec qui nous a fait le point qu'on vous quitte et on vous souhaite à tous Shabbat Shalom et à très bientôt la semaine prochaine.
Hola Omer. ¿Qué tal, amigo?
1, 2, 3, dale.
Todo es la música, deja la política, no importa.